Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour un numéro un peu spécial dédié à un événement très important, le jumelage entre le diocèse de Toulouse et celui de Jbeil Biblos au Liban. La signature de la convention a lieu ce dimanche 22 juin lors de la messe à la cathédrale Saint-Étienne où Mgr Guy de Kerimel, archevêque de Toulouse, et Mgr Michel Aoun, évêque de Jbeil, vont officialiser ce jumelage. Une messe d'action de grâce est également présidée le soir à 18h en l'église du Christ-Roi à Toulouse par Mgr Aoun. Nous allons vous expliquer tout ça, l'histoire des relations entre ces deux diocèses et les perspectives qu'ouvre ce jumelage avec les invités de cette émission. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir trois invités très impliqués dans cet événement pour vous le présenter et pour vous raconter l'histoire qu'il y a derrière et plus encore l'histoire qui va s'écrire ensuite. Je souhaite la bienvenue à Mgr Michel Aoun. Je la souhaite aussi au Père Sébastien Vauvillier, curé des ensembles paroissiaux de Revel et Caraman, membre du comité de jumelage entre Toulouse et Jbeil Biblos. Et je la souhaite enfin au Père Joseph Ziadé, chancelier du diocèse de Jbeil Biblos. Je pense que nos auditeurs sont impatients de connaître l'histoire et les liens qui unissent les deux diocèses. À quand remontent-ils et comment se sont-ils concrétisés jusqu'alors? Par quelles actions, par quels échanges? Qui veut répondre? Peut-être Père Sébastien, pour commencer.
Eh bien, on peut dire qu'il y a une histoire récente des liens entre les deux diocèses qui passe par la paroisse orientale maronite de Toulouse, qui passe aussi par les allées et venues de l'archevêque, notamment, et du vicaire général au Liban l'année dernière, et puis aussi des pèlerinages qui ont eu lieu en 2022. Et peut-être plus largement, et pas que dans le domaine religieux, on peut dire une longue histoire qui commence presque à l'époque des croisades et qui s'est continuée plus ou moins. Donc on peut dire que le Liban est un peu une sorte de passion toulousaine qui régulièrement revient au gré des personnes, des publications, etc. Donc il y a quelque chose de naturel que finalement ce premier jumelage pour le diocèse de Toulouse avec un autre diocèse ce soit avec le Liban et le diocèse de Jbeil où chacun sait que le Père Tagnos a été ordonné donc à la cathédrale de Biblos au 15 août 2019, en présence de l'archevêque de Toulouse, Mgr Le Gall à l'époque, et par Mgr Aoun, ici présent.
Le Père Tagnos, que nous avons déjà reçu dans cette émission, et qui est le curé de la communauté de la mission maronite à Toulouse. Mgr Aoun, je vais vous demander de nous présenter ce diocèse, votre diocèse de Jbeil Biblos. Où est-il situé précisément? C'est important pour les gens qui arrivent à peu près à le situer sur une carte, pour ceux qui connaissent le Liban bien sûr. Et à quoi ressemble la géographie et puis l'histoire? C'est une histoire très ancienne et notamment l'histoire religieuse.
Et d'abord, merci beaucoup de nous accueillir à la radio Présence. Et je suis heureux d'être présent en France et de parler de ce jumelage. D'abord, notre diocèse au Liban, Jbeil. D'une part, c'est un diocèse autonome récent qui a été créé en 1990. Mais avant était un vicariat patriarcal. C'est-à-dire le patriarche était l'évêque de ce diocèse avec d'autres et il y avait un vicaire patriarcal qui venait souvent pour mener les choses et réunir les prêtres et suivre la pastorale. Notre diocèse, il est nommé Jbeil parce que la ville Jbeil Biblos, qui se situe au bord de la mer, de la Méditerranée, c'est une des plus anciennes villes qui a été toujours habitable depuis plus de 6000 ans. Mais le diocèse va aussi dans la montagne. C'est tout le Casa de Jbeil qui est le diocèse de Jbeil. l'histoire chrétienne est très ancienne, parce que nous savons d'abord que celui qui a évangélisé cette ville, c'est Jean-Marc, l'évangéliste. Et pour cette raison, l'église qui a été construite par les croisés en 1115, maintenant qu'il y a plus que 910 ans, elle est dédiée à Saint Jean-Marc. Et ensuite, même la présence maronite. Les maronites, c'est une église syro-antiochienne, c'est de la tradition antiochienne, et qui a été toujours unie à Rome. Vraiment, parce qu'il n'y a pas une branche orthodoxe. Elle s'appelle maronite en attribution à Saint Maroun, un anachorète qui a vécu dans la partie nord de la Syrie.
Au 5e siècle, je crois.
Il est mort en 407-410, ouais, début du 5e siècle. Lui n'était anachorète, il n'a fondé ni ordre religieux, ni église. Mais vraiment, sa vie spirituelle, sa sainteté, il a attiré beaucoup de monde. Et après sa mort, un grand monastère a été construit, portant le nom monastère de Saint Maroun. Et c'est là qu'il y a eu une floraison, disons, d'une spiritualité spéciale, et qui a pris chair après le concile de Chalcédoine. Parce que vous savez qu'à Chalcédoine, il y a les orientaux, les syriaques, les arméniens, les coptes, qui ont refusé les deux natures du Christ, alors que le monastère de Saint Maroun, avec tous les alentours, ils ont professé la foi de Chalcédoine. Et on dit que c'est là qu'a commencé une réalité ecclésiale qui a été confirmée après la chute d'Antioche, avec l'invasion arabe musulmane. Pour nous, le premier patriarche, Saint Jean Maroun, il était aux environs de 685. Et depuis, l'église maronite continue. Eshbaël, vraiment, elle se situe dans le mont Liban, dans la partie nord du mont Liban.
La c'est ville, à 40 km au nord de Beyrouth. Hein,
oui, c'est à 35 km de Beyrouth. Beyrouth se trouve au centre, c'est à 35 km au nord de Beyrouth.
Oui, oui. Et moi j'ai vu les photos, c'est vraiment magnifique. Hein. Donc il y a la cité antique, la cité médiévale, oui. Un site vraiment superbe. Les communautés religieuses, donc essentiellement chrétiens maronites.
Les maronites.
Aussi, un quart de musulmans à peu près.
Un peu moins, il y en a entre 20 et 25% de musulmans, chiites et sunnites. Et nous avons aussi une petite communauté orthodoxe.
Grec-orthodoxe.
Grec-orthodoxe. Ils ont entre 6 et 7 paroisses, je pense. Et nous avons toujours de bonnes relations, soit avec les orthodoxes.
Vous travaillez beaucoup au dialogue interreligieux.
Oui, il y a d'une part, lorsque nous célébrons la semaine de l'œcuménisme entre le 18 et le 25 janvier, mais presque dans toutes nos occasions, nous invitons les prêtres orthodoxes et ils sont présents, il y a une estime réciproque. Même l'évêque, parce que l'évêque, il habite loin, il n'a pas un siège à Byblos, parce que le diocèse orthodoxe, il commence à Beyrouth et finit même plus loin de chez nous. Et il y a aussi la communauté musulmane, il y a un comité de dialogue interreligieux. Il y a un mois, nous avons organisé un colloque sur la fraternité humaine, le document signé par le pape François et l'imam de l'Azhar à Abu Dhabi. Vraiment, c'était un moment très fort, un moment convivial, parce que nous comptons toujours approfondir cette relation mutuelle et cette volonté que le Liban, il a toujours vécu avec les deux ailes, les chrétiens et les musulmans. Et il faut vraiment conserver ces rapports.
Est-ce qu'il y a des lieux religieux importants qui sont dans le diocèse de Jbeil Biblos? Peut-être oui. Le père Joseph peut nous en parler. Je crois qu'il y a un monastère notamment.
Il y a plusieurs sites importants à Jbeil. Il y a le couvent de Saint-Charbel qui est né en 1828 à Qaqafra au nord du Liban. Et en même temps, le commencement de la construction du couvent à Annaya en 1828, Saint Charbel qui a vécu entre le couvent et l'ermitage à peu près 40 ans, et après l'année 1950, le monastère Saint-Maron est devenu, grâce à Saint-Charbel, un grand lieu de pèlerinage national et international, que visitent des milliers de croyants pour la prière, pour la pénitence, ainsi pour satisfaire leurs différents besoins spirituels. Encore, on a la maison natale du bienheureux Stéphane Namé, né le 7 mars en 1889 à Lahfed. Il est mort en 1938 au monastère de Kfifan. Cette maison est dirigée actuellement par le supérieur du couvent de Saint-Charbel, l'abbé Tanous Namé. Les sites religieux dans notre diocèse jouent un rôle très important à tous les niveaux et spécialement au niveau spirituel.
Oui, oui. Au lieu vraiment religieux, au lieu d'histoire, le jumelage diocésain, ce n'est pas nouveau en France, mais est-ce que c'est une première pour le diocèse de Toulouse, Père Sébastien ?
Oui, à Toulouse, je pense qu'il n'y a jamais eu de jumelage entre deux diocèses, Toulouse et un autre diocèse. Donc ça, c'est une première, et il est bien heureux que cette première soit avec le diocèse de Jbeil et le Liban. C'est du coup une occasion d'essayer de... profitant peut-être des expériences des autres, mais de se rappeler de ce que signifie deux jumeaux, jumelage, oui, jumeaux, oui. C'est-à-dire un lien fraternel, et ce lien fraternel qui est déjà celui instauré par la foi elle-même. Monseigneur vient de souligner cette question de la catholicité, de la foi maronite, très implantée depuis toujours et très solide. Eh bien, c'est déjà cela le premier axe de notre gémellité, voyez. Ensuite, évidemment, il y a l'histoire. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure un peu l'époque des croisades. Avec Raymond de Saint-Gilles, on peut dire qu'en effet, Raymond IV, comte de Toulouse, et Raymond Ier, Raymond de Saint-Gilles, comte de Tripoli, ça fait bien le même pour deux endroits tout à fait à distance, mais qui finalement... on peut dire à partir de ce moment-là, se lie ensemble et donc une histoire comme celle-là. Des liens historiques et finalement des liens personnels qui, notamment dans les dernières périodes, se sont développés. On se souvient de Dominique Baudis qui avait une passion pour le Liban.
Absolument,
bien sûr.
Ouais.
Et on voit bien aussi qu'actuellement, la mairie de Toulouse garde cette tradition de manière assez forte, vous voyez. Donc, à partir de là, lorsque la paroisse orientale, maronite, mission maronite, a été instaurée donc, dans la toute dernière période, depuis 2019, avec la venue du Père Tagnos, on peut dire que les choses se sont beaucoup intensifiées dans ce rapport, parce que c'est une paroisse qui est quand même extrêmement intégrée dans la vie diocésaine dès le départ. Alors, c'est la volonté de Tagnos, je pense, sa nature, sa personnalité, mais parce qu'aussi ces chrétiens qui se retrouvent là, bien, ils étaient aussi connus par ailleurs, ils étaient là, et ils n'étaient pas invisibles, si vous voulez. Et donc, du coup, tout ça vient, je dirais, assez naturellement, ce qui fait que, par exemple, lorsque nous sommes passés hier... à la DDEC, Direction de l'enseignement catholique, tout de suite il y a eu une appétence des personnes que nous avons rencontrées, du directeur et des chefs d'établissement qui étaient avec lui, pour que ce lien prenne chair par le biais par exemple des établissements scolaires.
Alors, puisque vous en parlez, quel est l'objectif de ce jumelage entre le diocèse de Toulouse et celui de Jbeil-Biblos ? Qu'est-ce que cela implique pour les deux et qu'est-ce que ça va apporter à chacun d'entre eux ?
Alors, je pense que naturellement, ça, si on le voit, les autres diocèses en jumelage font cela en premier en général, c'est-à-dire les échanges entre clergés, séminaristes, des prêtres qui viennent l'été ou qui font des contrats qu'on appelle fidei donum dans un sens ou dans un autre. Donc des interventions un peu du clergé. Il y aura un séminariste, dès le, monsieur pourra nous en parler, dès le mois de septembre, un séminariste du diocèse de Toulouse, donc HBL, pour une année. Ça, c'est en général la chose la plus immédiate, si vous voulez. Nous, ce qu'on voudrait bien, c'est que ce jumelage, il imprègne un peu toutes les dimensions de la vie du diocèse. Et l'enthousiasme des chefs d'établissement répond parfaitement de ce point de vue-là, sachant que, notamment par les pères maristes, par exemple, qui ont une école ici et qui ont une école là-bas. Donc, c'est des liens qui, finalement, par le biais des congrégations, peuvent exister. Et peut-être, c'est notre mission de les faire vraiment exister concrètement, peut-être.
Monseigneur.
Oui, ce qui caractérise l'Église, c'est d'être Église-communion. Et moi, je pense que ce jumelage, il favorise la communion spirituelle et fraternelle entre nos deux diocèses. Et d'autre part, je pense qu'il y a une dimension très importante, parce que le père Sébastien a parlé de cette collaboration, ou bien de ce va-et-vient de prêtres, séminaristes, parce qu'il y a une dimension très importante qui est la dimension missionnaire. L'Église, de par soi, elle est missionnaire, parce que le Christ nous a envoyés pour témoigner. Et ce témoignage est très important, parce que chaque diocèse, il a ses caractéristiques. Moi, en venant à Toulouse, hier par exemple, j'ai été à la maison diocésaine. J'ai vu une grande richesse dans la pastorale. Alors, ça m'a donné une ouverture. J'ai pensé à plusieurs possibilités. Et je pense de même, lorsqu'ils vont visiter le Liban, ils verront un peuple très pratiquant, un peuple vraiment dont la religion, elle est ancrée, elle est jusqu'au plus profond de eux-mêmes. Et je pense que c'est une possibilité d'enrichissement vice-versa. Et d'autre part aussi, il faut penser à cette connaissance mutuelle. Parce que je pense que l'Occident, il ne connaît pas suffisamment l'Orient, avec toutes ces richesses liturgiques, traditionnelles.
Mais même souvent, il y a une peur de l'Occident vis-à-vis de l'Orient. Oui. Et peut-être inversement, d'ailleurs. Oui.
Et aussi, de notre part, parce que lorsqu'on parle de l'Occident, oui, on peut parler de la culture, de beaucoup de choses qui attirent nos jeunes, mais aussi connaître la spiritualité occidentale et voir que, comme on dit toujours, que l'Église respire avec ses deux poumons, avec l'Orient et l'Occident. Alors, cette connaissance mutuelle, c'est un lieu d'enrichissement qu'on peut vivre ensemble, soit à HBL et soit à Toulouse.
Père Joseph, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous espérez? Quelles sont les perspectives que vous voyez dans ce jumelage entre les deux diocèses?
C'est déjà parlé avec Père Sébastien et Monseigneur, mais je crois qu'il va y avoir plus de communication entre nous et les différentes parties du diocèse de Toulouse, même au niveau des gens, au niveau des pratiquants, des croyants. Il peut y avoir des relations et des visites, vice-versa.
Oui, parce qu'on parlait des religieux, qui, évidemment, il y aura des échanges séminaristes, mais aussi pour les pratiquants, le simple croyant. On peut espérer qu'il y aura aussi des échanges qui se feront, peut-être même des comités qui se monteront pour organiser des voyages, et que chacun, avec de réception chez l'habitant, pour que les gens puissent mieux se connaître et aller dans le sens de ce que vous disiez, une meilleure connaissance entre Orient et Occident, entre orientaux et occidentaux.
Oui, c'est vrai.
Et en même temps, on peut travailler ensemble. Nous et les comités qui se trouvent avec les laïcs du diocèse de Toulouse, on peut travailler ensemble et faire quelque chose de bien.
Je pense que c'est ce qu'on peut imaginer, que c'est ce qui se passera. Alors, après cette présentation du diocèse de Jbeil, Biblos et des perspectives, couvre son jumelage avec celui de Toulouse, nous allons faire la pause habituelle dans cette émission. Nous parlerons ensuite des événements organisés à Toulouse ce dimanche 22 juin pour célébrer la signature de la convention liant les deux diocèses. En attendant, nous allons écouter des chants traditionnels maronites. Retour au direct avec les invités de cette émission. Je suis toujours en compagnie de Mgr Michel Aoun, évêque de Jbeil, du père Sébastien Vauvillier, curé des ensembles paroissiaux de Revel et Caraman, membre du comité de jumelage entre Toulouse et Jbeil Biblos, et du père Joseph Ziadé, chancelier du diocèse de Jbeil Biblos. Ce jumelage va donc être officialisé ce dimanche 22 juin lors de la messe à la cathédrale Saint-Étienne avec la signature de la convention liant les deux diocèses par Mgr de Kerimel et Mgr Aoun. C'est le grand événement de la semaine, mais il y en a eu d'autres avant. Je crois que votre agenda a été très chargé et que vous avez fait beaucoup de visites et de rencontres, Mgr Aoun et Père Joseph. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, nous avons débuté notre visite à Toulouse par un pèlerinage à Lourdes. C'était mardi matin. On est parti à Lourdes, passant par Saint-Bertrand de Comminges, là où on a célébré la messe dans sa belle cathédrale. C'était très émouvant. Et à Lourdes, vraiment, c'était très beau parce que nous avons prié le chapelet devant la grotte. Ensuite, nous avons participé à la procession eucharistique Et nous avons prié pour le diocèse de Toulouse, pour le diocèse de Jbeil et pour le Liban. Et ensuite, mercredi, c'était une très belle journée avec les prêtres du diocèse. C'était un moment de communion parce que c'est très important que les prêtres soient impliqués et qu'ils connaissent vraiment toutes les dimensions de ce jumelage et qu'ils soient impliqués un peu dans ce mouvement. Hier aussi était une très belle journée parce que nous l'avons passé à la maison diocésaine et terminé avec les prêtres retraités avec qui nous avons célébré la messe. Et là aussi, j'ai été émerveillé que tous les prêtres sont au courant et sont enthousiastes pour ce jumelage. Ils ont prié, ils ont exprimé leur joie. Bon, ça, c'est un peu ça.
Alors, je crois que vous avez aussi rencontré des communautés religieuses de notre région, notamment
oui,
les Béatitudes, je
les
crois.
Béatitudes, les Carmélites, et le soir, c'est...
Les Dominicains.
Les Dominicains.
C'est aujourd'hui.
Ça, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Vous allez rencontrer les Dominicains.
Les trois communautés, c'est aujourd'hui.
À Lourdes, vous y étiez déjà allé, hein. Vous connaissez,
oui, c'est pas la première fois.
Par contre, Saint-Bertrand, vous avez découvert Saint-Bertrand
oui,
en commun.
Oui, c'est la première fois, oui.
Oui. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans tout ce que vous avez pu découvrir, en dehors bien sûr des rencontres humaines
hein. À Saint-Bertrand, voir cette cathédrale du Xe siècle, majestueuse, très belle, vraiment, ça pense à cette histoire de la France, de la chrétienté qu'il faut savoir sauvegarder. Pour cette raison, je pense que c'est très important toujours d'annoncer l'évangile avec un témoignage authentique. Le pape Léon ne cesse de répéter aux prêtres qu'il faut être un peu le, pas parfait, mais véridique, ou bien
authentique
oui, à travers le témoignage de vie. Oui.
Et vous allez visiter aussi le Carmel de Muret,
juste après l'émission. On sera au Carmel.
On parlait d'agenda chargé parce que vraiment tout s'enchaîne. Hein, il n'y a pas de temps mort.
Oui,
mais bon, c'est très bien parce que vous aurez vraiment une vue, je pense, très complète du panorama religieux de notre région. Donc, deux grands événements ce dimanche 22 juin, la messe à la cathédrale Saint-Étienne. Je le rappelle, hein, c'est là où va être signée la convention de jumelage entre les deux diocèses. Et puis, il y a la messe d'action de grâce le soir à 18h en l'église du Christ-Roi à Toulouse, présidée par Mgr Aoun. Concernant la messe à la cathédrale Saint-Étienne, est-ce qu'elle va avoir quelque chose de particulier en dehors de la signature de la convention de jumelage, Père Sébastien?
Alors d'abord, c'est la fête du Saint-Sacrement, la fête du corps et du sang du Christ. Donc il y aura la messe et la procession traditionnelle en fin de messe qui nous mènera jusqu'à la chapelle Sainte-Anne, où il y aura l'adoration ensuite en suivant jusqu'à la fin de journée. Ça, c'est la vie paroissiale ordinaire de la cathédrale avec son curé, le Père Simon d'Artigues. Et donc, c'est au cours de cette célébration qu'on va signer la convention, qu'il y aura des prises de parole, évidemment, et que du coup, de manière solennelle, le sens sera donné, l'orientation sera donnée. Donc, aussitôt après l'évangile, les deux évêques s'approcheront de l'autel où on apportera donc les documents déposés sur l'autel. Ils seront signés. À ce moment-là, il y aura un chant maronite. Voilà. Puis, une fois la signature faite, la messe suivra son cours. Il y aura un deuxième chant maronite pendant l'offertoire. Et puis, la procession elle-même commencera par un chant maronite. Et c'est ainsi que cette célébration aura pris complètement la couleur de ce pèlerinage, de ce jumelage, pardon.
Donc ça commencera à 10h30. Hein,
10h30,
voilà. Ouais. Et après, il y aura aussi un temps convivial, je crois, pour
c'est
ceux
ça.
Qui le souhaiteront rester.
Exactement, dans la cour Sainte-Anne, il y aura un verre de l'amitié, un apéritif avec tous ceux qui seront là. Et du coup, les échanges, vous voyez que cette semaine qu'a vécu Mgr Aoun, il a été complètement immergé dans... cette vie fraternelle du diocèse de Toulouse. Il a rencontré beaucoup de gens, le clergé, dans les fidèles. Et donc, c'est la continuité, si vous voulez. Et du coup, comme il l'a fait chaque jour, il pourra aussi, avec les uns et les autres, échanger, faire connaissance, voilà. Et bien sûr, le soir, il y aura cette messe d'action de grâce au Christ roi qui sera un peu le point d'orgue et la conclusion de cette belle semaine.
Oui, et... Monseigneur, vous avez découvert les prêtres de notre diocèse jusqu'alors, et puis les communautés religieuses, mais là, vous allez découvrir les paroissiens pendant cette messe.
Oui, et certainement. Je pense que, comme l'a dit Père Sébastien, la messe du matin sera une très belle messe parce qu'il y a aussi l'occasion de la fête du Saint-Sacrement. Et ensuite, le soir, il y aura la messe d'action de grâce que nous allons célébrer à 6 heures selon le rite maronite, en français et en arabe.
Ah oui, parce alors expliquez-nous comment va se dérouler cette messe.
Oui, parce que vous savez,
pour
nous maronites, la langue liturgique, c'est le syriaque.
Oui.
Comme le latin, il est pour l'Église romaine. Mais notre messe, au Liban par exemple, nous conservons toujours les paroles de la consécration en syriaque. Et aussi lorsque nous chantons le Triségion, c'est-à-dire Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Et ensuite, l'entrée de chaque partie de la messe. L'entrée pour la partie de la parole, et ensuite l'entrée pour la partie eucharistique. Alors on conserve tout ça en syriaque, mais toute la messe, elle est en arabe. Là, pour savoir que la langue arabe, c'est pas seulement une langue musulmane, parce que les chrétiens arabes existaient même avant Mahomet.
Bien sûr, largement avant même.
C'est très important. Mais sûrement, notre messe à Toulouse, elle sera en arabe, en français. Et même les parties dites en arabe, il y aura la traduction, c'est pour encourager.
Donc il y aura une traduction sur un écran, c'est
oui,
ça hein?
Oui, certainement.
Alors, tout le monde pourra lire,
oui,
même les gens qui n'entendent pas bien, ils pourront suivre sans problème.
Et c'est très important de remercier Dieu, parce que vraiment toute initiative vient de lui. Mais il faut aussi également remercier toutes les personnes qui ont œuvré à ce jumelage. Spécialement le Père Tanius, le curé maronite de la communauté maronite orientale à Toulouse, parce qu'il était enthousiaste pour ce jumelage depuis qu'il a été ordonné dans notre cathédrale Ashbeil Biblos. Et moi, l'année passée, j'étais venu à Toulouse pour une première connaissance. C'était pour moi la première fois. Et j'ai rencontré Monseigneur de Kerimel. Donc j'ai passé une semaine chez lui en visitant Toulouse et aussi tous les diocèses suffragants de Toulouse.
Oui, vous commencez à bien connaître maintenant.
Oui. Et ensuite, Monseigneur de Kerimel est venu au Liban l'année passée.
L'été dernier, c'est ça
oui, oui.
Avec le vicaire général.
Oui. Oui. C'était une très belle visite, très riche. Et c'est ça vraiment qui a... on peut donner l'essor à ce jumelage. Alors il faut remercier Dieu et toutes les personnes qui ont œuvré à ce que ce jumelage soit mis en place.
Alors pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas encore assisté à une messe maronite, il y a beaucoup de chants, enfin vous précisez, hein, il y a énormément
oui.
de chants.
Oui, il y a relativement beaucoup de chants, mais aussi la messe solennelle, elle est chantée, même toutes les parties, le prêtre, il peut les chanter s'il a une belle voix.
Oui, oui bon, en général, oui. Pour y avoir assisté, je confirme que les prêtres maronites et le père Tadio chantent très bien, et puis il y a des chœurs autour de jeunes, c'est toujours très très beau, vraiment très très beau. On ne l'a pas dit, il y a le temps convivial après la messe du matin, il y en aura un aussi après la messe oui. d'action de grâce au Christ-Roi, qui aura lieu, je crois, à la maison diocésaine du Christ-Roi,
oui.
Mais ce sera là, à l'Oriental.
Oui, c'est ça. Alors nous invitons beaucoup de monde. Pas seulement les orientaux, mais aussi les fidèles de Toulouse pour être présents, parce que c'est un moment fort. Et je dirais que vraiment ce jumelage, on peut le vivre ensemble, soit au niveau personnel des personnes, soit au niveau des communautés, des institutions et des paroisses, parce qu'on pourrait dans le futur même organiser des pèlerinages. Une paroisse qui aimerait venir de Liban faire un pèlerinage dans la région et à Lourdes, qui puisse être accueilli à Toulouse et vice-versa.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense que des comités se formeront de laïcs, hein, qui voudront organiser ces voyages.
Certainement. Il y a un comité ici, un comité chez nous, et on va évaluer, chemin faisant, ce jumelage pour le développer.
Il y aura un travail immense avec les deux comités de jumelage pour améliorer cette confrérie.
Oui, et puis cette connaissance mutuelle, et puis tout ce qu'il va y avoir à faire et à voir aussi, de part et d'autre. Il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui me semble importante. Vous parliez tout à l'heure du dialogue interreligieux, hein, chez vous au Liban. Et je crois savoir qu'en France, et à Toulouse notamment, il y a beaucoup de musulmans qui vont à la messe à Saint-François d'Assise, parce qu'à Toulouse, c'est à l'église Saint-François d'Assise, pour retrouver un peu l'air du pays, puis la langue. Et donc il n'y a pas du tout de barrière, en fait. Hein.
Oui, c'est ça, vraiment. Ce qui est beau, c'est cette ouverture. Je pense aussi les musulmans ici, ils peuvent faire une nouvelle expérience. Au Liban, c'est très ouvert, parce que nous avons toujours vécu ensemble. Il y a des villages et des villes là où les chrétiens et les musulmans ont cohabité, ils ont des amitiés, ils travaillent ensemble.
Ils vivent ensemble.
Même dans les écoles, quelquefois, même on ne pense pas, cette personne-là, elle est chrétienne, elle est musulmane. Malheureusement, c'est la guerre, c'est un peu le fanatisme qui peut un peu, pour dire, cette relation saine peut être tachetée par une réalité qui n'est pas bonne, qui n'est pas voulue. Et pour cette raison, moi je dis, toutes les fois qu'il y a des voix fanatiques ou bien des voix qui veulent la séparation, il faut multiplier les rencontres interreligieuses et ce dialogue avec les sages, avec les grandes personnes qui donnent de leur expérience et invitent aussi les jeunes accepter ou bien vouloir vivre cette vie un peu interreligieuse de communion.
Oui. Père Sébastien, peut-être un mot sur cet aspect qui me semble important.
Je pense que tout à l'heure, lorsque Monseigneur a donné les contours de ce jumelage, notamment sur la question de la communion et de la foi et ce qu'on s'apporte mutuellement, je pense qu'il y a une ferveur orientale qui emporte un peu notre esprit occidental, souvent trop
dans la retenue,
morne et rationnel dans la retenue, vous avez raison. Et du coup, il y a comme ça, ça aide à renouveler aussi. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de Toulousains passent à un moment ou à un autre par l'église Saint-François d'Assise, chez Père Tagnos. Voilà. Et qui n'est pas que dans la célébration liturgique, mais qui est aussi dans ce qui va tout autour, lorsqu'on se met à manger, lorsqu'on se met à danser. Dimanche soir, il y aura la célébration, et puis en suivant, la fête commune sera là, avec certainement quelques surprises. Et si vous voulez, c'est ça aussi, cet ensemble. On parle souvent de écologie humaine, d'intégralité, de prendre l'humain dans son intégralité. Et là, on y est on l'expérimente.
Oui, voilà. Très concrètement.
Et les gens l'expérimentent de manière renouvelée un petit peu, je dirais.
Les prochaines échéances après le jumelage, vous avez évoqué le fait qu'un séminariste, dès le mois de septembre, ira pendant un an à Jbeil,
c'est ça,
en formation.
Il fait un stage. C'est assez traditionnel, là, pour le coup, dans la formation des séminaristes ici à Toulouse, qu'entre les deux cycles, la philosophie et la théologie, il y ait un moment de stage. À mon époque, il y avait le service national qui rendait ça obligatoire.
Oui, c'était obligatoire.
Donc on faisait ce stage dans ce cadre-là, ou en coopération, comme j'ai fait. Donc là, il n'y a plus de service, mais la nécessité de ce stage n'a jamais été abandonnée. Donc Grégoire sera au mois de septembre.
Le séminariste en question,
rejoindra le diocèse de Jbeil au mois de septembre. Il a passé la journée avec Monseigneur mardi dans notre pèlerinage et les paroissiens qui étaient là. Voilà. Certainement que suite à la rencontre qu'on a eue hier avec l'enseignement catholique, probablement que ça sera un des autres aspects immédiats qui viendra, parce qu'ils sont très en attente. C'est que le directeur, en sortant, m'a dit il faut pas, faut vite embrayer la chose.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Ce qui veut dire que le sujet scolaire des jeunes ados ou écoliers, etc., va arriver vite aussi. Et ça, c'est un bien, parce que pour le coup, on n'est plus simplement dans une question de clergé, on est vraiment dans la question des enfants et à travers eux, des familles. Donc oui. ça va venir vite, je pense aussi. Voilà. Puis il y a les pèlerinages. Et dans une des rencontres hier, il y avait les scouts et guides là qui se présentaient, les trois mouvements. Et on sait qu'au niveau des aînés, notamment chez les Scouts de France, il y a souvent des projets internationaux comme cela. Soit ils accueillent, soit ils vont. Et donc, je pense que ça viendra assez vite aussi.
Monseigneur, je vais vous laisser le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme de cette émission.
D'abord, je vous remercie pour cette émission. Et je dirais que ce jumelage sera un temps de grâce pour notre diocèse et aussi pour le diocèse de Toulouse. Et je pense que sans la volonté de Dieu, personne ne serait en grade de le faire. Pour cette raison, il faut se confier aussi à Dieu. C'est lui qui nous inspire, il nous guidera. La volonté y est, parce que nous sommes tous enthousiastes pour développer ce jumelage. Et on va le commencer avec la première expérience, avec l'accueil de Grégoire, le séminariste qui vient au Liban. Et j'espère que très prochainement, il y aura d'autres visites et d'autres activités qui seront élaborées par les deux comités ici à Toulouse et chez nous, à Jbeil, au Liban.
J'en suis certain. Eh bien, c'est la fin de ce numéro. Merci infiniment à tous les trois d'en avoir été les invités. Je rappelle donc que ce dimanche 22 juin à 10h30, lors de la messe à la cathédrale Saint-Étienne, va être signée par Mgr de Kerimel et Mgr Aoun la convention liant les diocèses de Toulouse et de Jbeil Biblos. Le soir à 18h, pour célébrer ce jumelage, messe d'action de grâce à l'église du Christ-Roi, présidée par Mgr Aoun. Ce numéro était animé par Éric Dupré, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous de votre fidélité à cette émission et rendez-vous la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.